Nous voici arrivés au dernier dimanche de carême, comme elle s'approche vite la passion du Seigneur. Et tout le carême devait être ce regard porté d'abord vers un lointain, un mystère, celui de la croix qui nous paraissait lointain, incompréhensible. Et peu à peu, eh bien, au long de cette méditation du carême, eh bien, ce mystère prend des contours et devient de plus en plus familier. Mon âme est triste à en mourir. C'est ce que Jésus dit à Gethsémani, ou dira par rapport à la chronologie du texte. C'est ce que Jésus dira au moment de, juste avant son arrestation, dans sa prière douloureuse à Gethsémani, sur le mont des Oliviers. Mon âme est triste à en mourir. Et il demande le réconfort des disciples dans le jardin. Ici, saint Jean ne nous parle pas de la prière de Gethsémani, il nous parle d'un discours d'adieu. Alors, il va suivre, juste après ce récit, la dernière scène et donc les discours d'adieu proprement dit du Seigneur. Mais il les fait, ces discours d'adieu de la dernière scène, uniquement dans un cercle très intime pour les apôtres. Tandis qu'ici, c'est des discours d'adieu pour la foule. Et pour la foule, eh bien, il confie quelque chose de très intime, un secret de son cœur. Mon âme est triste à en mourir. Il le confie à tous. C'est pas seulement un scoop pour les plus proches. Et nous devons, nous donc, nous l'approprier. Il nous est possible de rejoindre la tristesse du Seigneur. Oui, Dieu peut être triste. Triste parce que ses enfants, eh bien, ne viennent pas à lui. C'est le sens de la passion. La passion n'est pas un salut automatique. Et il ne sauve que ceux qui veulent bien suivre le Christ en prenant eux-mêmes leur propre croix. Et ça, c'est l'exigence de l'Évangile, que nous comprenons mal. Il faut l'avouer, on aimerait quelque chose de plus simple et de plus radical. On aimerait bien ne pas être libre, être comme les chiens qu'on tient en laisse et qu'on amène là où il faut, du moment qu'il y a à manger et qu'il fasse chaud, si le climat est rude. Jésus, lui, il n'est pas comme ça. Et le Père non plus, et l'Esprit-Saint, pas davantage. Oui, il y a la passion, mais il faut recevoir la grâce de la passion, la grâce du salut. Mon âme est triste à en mourir. C'est la porte pour comprendre la passion. Jésus nous permet de communier à son cœur douloureux. Il va donner sa vie, humainement parlant, mais surtout, il va prendre cette ténèbre du péché, et c'est pas rien. Là encore, les hommes ne comprennent pas ce que peut être le péché. Un monde sans Dieu, c'est ça, la ténèbre qui s'apprête à tomber sur l'âme de Jésus. C'est ce qui rend triste l'âme de Jésus. Cette ténèbre, un monde où Dieu n'est pas. Je parle de l'enfer, bien sûr. C'est le seul endroit où Dieu ne soit pas. Et ce monde-là, eh bien, Dieu l'autorise. Et ça reste en Dieu, mais comme un corps étranger. Vous voyez, c'est une sorte de blessure, exactement comme la blessure du cœur du Seigneur. Blessure certes glorieuse désormais. Tous les sacrés cœurs nous montrent cette blessure. Mais en même temps, c'est une vraie blessure. Nous devons communier, pas être indifférents, pas être durs de cœur nous-mêmes. Essayer de comprendre que Dieu est la source de nos sentiments, et si nous pensons avoir des sentiments, eh bien sachons que celui qui nous les a donnés en a bien plus que nous, et il est bien plus sensible que nous. Mon âme est triste à en mourir. Et la condition, donc, pour être avec le Seigneur, ça c'est l'entrée, l'entrée dans la prière, dans l'adoration, en quelque sorte, dans le mystère lui-même, dans son déploiement du mystère de la rédemption, du mystère de la croix. Jésus nous dit, qui aime sa vie, la perd. Qui perd sa vie, la sauvera. Ça, c'est un discours qu'on retrouve chez tous les évangiles. Et c'est un fondamental, je dirais, de l'enseignement du Christ. Il l'a répété, dans l'évangile de Jean, il le répète deux fois, etc. Oui, qui aime sa vie la perd. Quel paradoxe! Qui s'accroche à l'existence terrestre, eh bien, se perd. Qui sacrifie tout pour son bonheur terrestre, se perd. Au contraire, celui qui n'aime pas sa vie, enfin dans le sens pas psychologique, parce que ce serait absurde, mais dans le sens de l'âme, celui qui sait donner sa vie, comme Jésus le fait sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », eh bien celui-là se sauvera. Ce fondamental, qui est le principe de la passion, hein, c'est donner sa vie pour ressusciter. Et justement, c'est là le fruit, le point focal de cette affirmation, de cet enseignement du Christ, c'est la vie éternelle. C'est incompréhensible sans ce concept de la vie éternelle. C'est parce qu'il y a la vie éternelle, c'est parce que nous devons tout faire en vue de cette vie éternelle et non pas de cette vie qui passe si vite, la nôtre ici-bas. C'est pour ça que celui qui perd sa vie, eh bien, la sauve. Perdre sa vie, qu'est-ce que ça veut dire dans l'ordre de l'amour? Parce que Dieu est amour. Eh bien, c'est donner sa vie à celui qu'on aime. Et c'est pas difficile quand on aime. C'est très, très difficile pour qui n'aime pas, en revanche. Donner sa vie, pour qui aime uniquement sa vie, son ego, ses idées, ses projets, eh bien là, donner sa vie à Dieu, c'est quelque chose de quasiment impossible. Et le jugement, justement, se réalise aussitôt. Les personnes prennent d'elles-mêmes position. Dieu n'a même pas besoin de dire une seule parole dans son jugement à la fin de la vie de chacun d'entre nous. Là où je suis sera aussi mon serviteur. Là où je vais. Là où je suis, c'est pas un lieu matériel. Il faut le voir sous l'optique de la foi. Là où je suis, c'est je suis dans la volonté du Père. Je suis venu et j'ai accepté la mission du Père en vue du salut, en vue de vivre la passion. Et je ne vais pas, même si mon âme est triste à en mourir, me détourner de cette heure-là. Père, glorifie ton nom. Et où est Jésus? Il est dans le sein du Père. Volonté du Père, sein du Père, c'est-à-dire le cœur du Père. Et cette logique du Christ est toujours aux antipodes de la logique du monde. Jésus est quelqu'un qu'on critiquerait beaucoup. On dirait, bon, celui-là, c'est un type complètement étranger au monde, une espèce de rêveur, un attardé. On n'hésiterait pas, hein. Jésus a une telle distance vis-à-vis de la culture de son temps que ça fait de lui, tous ceux qu'on interpelle de la sorte depuis la nuit des temps, justement. Là où je suis, on se moque de vous, eh bien, tant pis, allez là où je suis. Moi, je ne suis pas dans les lieux où on encense, où on se fait encenser, où on tire sa gloire les uns des autres. Je ne suis pas là. Glorifie-moi, demande Jésus au Père. La voix arrive là et on a les attitudes normales, hein, des hommes. Il y a ceux qui sont incrédules, oh ben c'est le tonnerre. Mais il y a 2000 ans, ils n'étaient pas plus idiots que nous, pas plus intelligents non plus. Ils avaient la même conscience que nous et donc ils ont analysé les paroles du Christ comme nous le faisons nous-mêmes. Ah ben, ça c'est le tonnerre. D'autres disent non, c'est un ange qui lui a parlé. Il y a toujours les deux camps, le camp des incrédules et le camp de la foi. Et là, glorifie-moi, c'est être revêtu de la lumière d'en haut, être glorifié. C'est pas avoir des super pouvoirs, c'est avoir la lumière d'en haut. Et c'est mystérieux pour nous, la lumière d'en haut, elle est une sagesse, et elle est une pureté, qui nous rend transparents. Une pureté telle que nous pouvons dès lors entrer dans ce royaume de Dieu. Glorifie-moi. C'est-à-dire, enseigne aux hommes, confirme la parole que j'ai donnée aux hommes, qu'ils puissent fonder leur foi sur elle. C'est devenir un signe de salut pour les âmes. Et Dieu répond, eh bien, qu'il sera toujours avec le Fils, qu'il sera toujours avec lui. Je le glorifierai encore, ce nom-là, ton nom, Jésus. Même sur la croix, Jésus va vivre cette ténèbre totalement obscure qui lui fera dire « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous vous rendez compte, Jésus dit cela. Là, il dit pour l'instant « mon âme est triste à en mourir ». Bientôt, il dira « pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais le Père est toujours là. Malgré ce que la conscience ressent, malgré ce que nous ressentons dans nos propres épreuves, dans nos prières qui ne trouvent pas de réponse immédiate, le Père est là. Et là où est le Père, il y a Jésus. Et là où il y a Jésus, il y a son esprit d'amour, l'Esprit Saint. Donc le Père répond, il n'est pas du tout indifférent. Ce n'est pas la vision luthérienne où le Père, dans sa colère, abandonne le Fils à ce péché dont il est revêtu et le traite comme un damné, le pire des damnés d'ailleurs, puisqu'il est revêtu du péché du monde entier, pas seulement un péché individuel. Le jugement du monde. Maintenant a lieu le jugement du monde, dit Jésus. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Alors vous me direz, mais depuis l'époque de Jésus, le mal apparemment ne fait que pas diminuer dans les sociétés humaines. Il y a autant de péchés. Autant de péchés peut-être pas, mais disons qu'il y a autant de guerres, il y a autant de désastres, il y a autant de voleurs, de menteurs, de toutes sortes de gens. Ben oui et non. Oui, parce que l'homme est libre et donc il y a toujours ces impulsions qui nous tournent vers le mal. Non, parce qu'il y a toujours la possibilité du pardon, la possibilité de la conversion. Et ça, c'est complètement nouveau. Avant Jésus, il n'y avait pas cette possibilité. Il n'y avait pas la grâce qui permet de se convertir. Il n'y avait pas cette grâce qui permet de s'humilier et de demander pardon à Dieu. Tout était déjà, semblait-il, jugé d'avance. Ce n'était pas jugé d'avance puisque le Christ a tout changé. Mais c'est vrai que, au regard du temps d'un homme, de la vie d'un homme, eh bien, il s'est passé pas mal de temps. Mais Dieu, lui, rachète les hommes, même ceux qui semblaient être morts avant la résurrection, être perdus, donc, il les sauve, il va les chercher dans les enfers. Après sa mort sur la croix, et il les entraîne avec lui au matin de Pâques, à la résurrection. Donc la logique du monde, le jugement du monde, c'est cette logique. Moi d'abord, les autres, s'ils me sont utiles ou agréables, peut-être, mais tout au plus. Moi d'abord, moi, enfin. Et puis accumuler, peu importe les conséquences de l'accumulation. La grenouille de la fontaine, pas, qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, qui a tellement peur de manquer, qui absorbe. Et on voit ça partout, sur toute la planète et à tous les niveaux. C'est une espèce de course d'appétit qui ne peut pas s'arrêter. Le mal est vaincu. Il est vaincu par la foi en la vie éternelle et en rien d'autre. C'est pourquoi ce n'est pas un salut automatique. Parce qu'il y a une condition et elle est de taille. Il faut travailler aux œuvres qui demeurent et non pas aux œuvres qui passent. Il faut travailler à constituer un trésor dans l'éternité. Oui, nous nous occupons des choses de la vie, des choses de la terre, mais nous faisons en voyageurs, en passant. On ne s'installe pas sur cette terre. Alors on le sait bien intellectuellement, mais c'est existentiellement qu'il faut le réaliser. Voyez, les démons tiennent les hommes dans la peur. La peur de toutes sortes, la peur donc de manquer, je viens d'en parler, mais la peur par rapport à la santé, par rapport à l'argent, par rapport aux guerres, aux déstabilisations du monde dans lequel on vit, etc., etc. Il y a toujours une peur qui vient briser l'élan des hommes, leur tension vers la vérité. Rapidement, ils retombent dans la logique du monde et sont prêts à tous les compromis dès lors pour parer au danger immédiat. J'attirerai, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi, dit Jésus. Je conclue là-dessus, c'est la miséricorde du Seigneur. Il a vécu la passion pour chacun d'entre nous, pour nous éviter de la vivre. Et qu'est-ce que la passion, je le répète, jugement du monde, parce qu'elle montre en quoi consiste la logique du monde, mettre l'innocent sur la croix, défigurer l'innocent, torturer l'innocent, simplement parce qu'il témoigne de la vérité. Mais c'est une vérité qui n'appartient pas à ce monde. C'est la vérité éternelle, c'est la vérité de Dieu. Donc comme elle n'appartient pas au monde et qu'elle ne nourrit pas le monde, qu'elle ne fait pas tourner le monde, eh bien on détruit le témoin de la lumière d'en haut. Alors il y a ça, c'est ce que la croix démontre. Mais j'attirerai tous les hommes à moi, c'est Jésus qui a porté cette croix pour chacun d'entre nous. Ces ténèbres d'un monde où Dieu n'est pas, eh bien nous sera épargné. Nous aurons ce salut dans la vie éternelle. Et nous vivons dès à présent dans un monde où Dieu est, où Dieu nous regarde, nous entend, voire même se fait sentir. Pas forcément, mais il le fait aussi. Alors, pour toute cette miséricorde, contemplons ce mystère de la croix en priant Dieu pour qu'il se précise dans nos esprits et dans nos cœurs, qu'il pénètre en nous, que le signe de la croix soit gravé sur notre cœur. Amen.